Albert Robida, La vie électrique, chapitre 7. L'hôtel Philox-Loris est converti en ambulance. 34 personnes sont entrées dans le salon au miasme, 33 sont malades. Seul Adrien l'aéronnière n'a rien ressenti. Les autres invités de M. Philox-Loris ont pu rentrer chez eux avec une très légère indisposition, qui s'est dissipée rapidement dans la journée du lendemain. Les malades sont restés à l'hôtel, les dames dans les chambres particulières, les hommes dans les salons de réception, subdivisés par des cloisons mobiles en petites salles d'hôpital. La maladie n'a rien de grave, heureusement, mais elle présente une singulière variété de symptômes qui tiennent tous en partie d'autres maladies connues. Par suite d'une heureuse chance, Georges Loris, Estelle et Madame Loris se trouvaient à une autre extrémité de l'hôtel quand l'épidémie a éclaté. Ils n'ont donc ressenti qu'un simple malaise, un mal de tête, accompagné de vertiges. Ils ont pu prendre la direction de l'ambulance et donner tous leurs soins aux malades. Dans la même salle, M. Philox-Loris, Sulfatin et M. Desmarettes sont couchés en proie à une fièvre assez violente. Comme ils ont absorbé les vapeurs délétères plus longtemps que les autres, ils sont les plus atteints. M. Philox-Loris et Sulfatin passent leur temps à se quereller. L'illustre savant, excité par la fièvre, accable son collaborateur de ses sarcasmes et de sa colère. « Vous êtes un âne. Est-ce qu'un véritable homme de science a de ces distractions ? Mon fils Georges, ce jeune homme fut-il et léger, n'en eût pas fait autant. Je vous croyais d'une autre étoffe. Quelle désillusion, quelle chute! Notre grande affaire va manquer par votre faute. Vous m'avez couvert de ridicule devant tout le monde. Mais vous me le paierez. Je vous fais un procès et vous demande de formidables dommages et intérêts pour notre affaire ratée. » Quant à M. Desmarettes, il déclamait dans un vague délire des morceaux de ses anciens discours à la chambre ou des chapitres entiers de son histoire des désagréments causés à l'homme par la femme. Ou bien il se croyait chez lui. Il se disputait avec Sulfatin, qu'il prenait pour Madame Desmarettes. « Ah ah ! Femme ridicule et surannée ! Vous voilà donc revenue ? Vous voulez ressaisir votre proie et me faire connaître de nouveaux tourments ?» Mademoiselle la doctoresse Bardoz, au bout d'une huitaine, se trouva rétablie. Elle avait été furieuse en premier lieu et s'était promis de traîner Philox-Loris devant les tribunaux. Mais quand elle fut en état d'étudier la maladie sur elle-même d'abord, puis sur les autres, sa colère tomba. C'est que cette maladie était extrêmement intéressante. Il n'y avait pas moyen de la rattacher à une fièvre connue et classée. Dans la première phase, elle participait de toutes les fièvres possibles à la fois. Elle réunissait les symptômes les plus divers, compliqués et entrecroisés, avec les anomalies les plus bizarres, puis soudain son évolution devenait complètement originale, absolument inédite. Il n'y avait pas à en douter, c'était une maladie nouvelle, créée de toutes pièces dans le laboratoire Philox-Loris, et qui de là, peu à peu, commençait à se répandre épidémiquement dans Paris. Quelques cas étaient signalés ça et là, dans les quartiers les plus divers. Il fallait attribuer cette contamination soit à des miasmes emportés par le vent lorsqu'on avait ouvert les fenêtres du salon infecté, soit à des invités, qui pourtant n'avaient ressenti eux-mêmes qu'un insignifiant malaise. Et de ces centres épidémiques, la maladie rayonnait peu à peu, prenant au fur et à mesure un caractère plus franc. Sur les rapports de mademoiselle la doctoresse Bardoz, ingénieure en médecine et doctoresse en toutes sciences, l'Académie de médecine avait délégué une commission de docteurs et de doctoresses pour étudier de près cette maladie nouvelle, la classer autant que possible et lui donner un nom. On ne s'entendait guère sur ce point, et chaque membre de la commission avait déjà son mémoire en train, dans lequel il formulait des conclusions différentes et proposait un nom particulier. La discorde menaçait de diviser le corps médical, car on ne s'accordait pas davantage sur la question du traitement. Par bonheur, M. Philox-Loris se trouva enfin rétabli. Quand la fièvre lui laissa la faculté de réfléchir, l'immunité d'Adrien l'aéronnière, traitée par le grand médicament national, lui fut une indication précieuse. Il s'inocula lui-même pour essayer. En 2 jours, il se trouva complètement guéri. Il se garda bien de rien dire à la commission de médecins, et les laissant discuter et disputer sur le nom à donner à la maladie et sur les traitements à lui appliquer, il inocula tous ses malades et les remit sur pied, au grand étonnement de la faculté. L'affaire, qui faisait un bruit énorme depuis une quinzaine, au détriment du crédit et de la renommée de l'illustre savant, prit soudain une autre tournure. Ses ennemis avaient eu beau jeu pendant quelques jours pour dauber sur lui à propos de l'aventure, et il s'était efforcé de jeter un peu de ridicule sur l'accident. Mais lorsqu'on vit Philox Loris et son collaborateur sulfatin se lever de leur lit de souffrance, se guérir eux-mêmes en un tour de main et guérir tous leurs malades, pendant que la faculté continua à se perdre dans les plus contradictoires hypothèses et à développer les plus bizarres théories sur cette maladie entièrement inconnue, l'opinion publique changea brusquement. On les proclama martyrs de la science. Des adresses de félicitations leur arrivèrent de toutes parts. Martyrs de la science. Et tous les invités de la fameuse soirée l'étaient aussi quelque peu en leur compagnie. Tous avaient plus ou moins été atteints, tous avaient droit aux mêmes palmes. Écoutons les journaux les plus importants et les plus autorisés leur rendre un public hommage après avoir détaillé leurs souffrances. Au moment où l'illustre inventeur, disait à l'époque, le journal téléphonoscopique de M. Hector Piquefol, invité de la grande soirée et martyr de la science lui aussi. Au moment où le grand Philox Loris venait de couronner sa carrière en faisant profiter la France d'abord et l'humanité ensuite, non pas d'une, comme on l'a dit, mais de 2 immenses découvertes, il a failli périr victime de ses courageux essais, et avec lui, l'élite de la société parisienne. Non pas une, mais 2 immenses découvertes qui doivent, la première, révolutionner complètement l'art de la guerre et le faire sortir de son éternelle routine, et la seconde, révolutionner de même l'art médical et lui faire quitter les mêmes sempiternels errements où il se traîne depuis Hippocrate. 2 découvertes sublimes, véritablement, et qui se tiennent, malgré leur apparente opposition. La première amène la suppression des anciennes armées et le rejet complet des anciens systèmes militaires. Elle permet d'organiser la guerre médicale, faite seulement par le corps médical offensif, mis en possession d'engins qui portent chez l'ennemi les miasmes les plus délétères. Plus d'explosifs comme jadis, plus même d'artillerie chimique, mais seulement l'artillerie des miasmes, les microbes et bacilles envoyés électriquement sur le territoire de l'ennemi. Merveilleuse transformation, gigantesque pas en avant. Bellone n'ensanglante plus ses lauriers. Immense progrès. La seconde découverte, qui met l'illustre savant au rang des bienfaiteurs de l'humanité, c'est le grand médicament national. Agissant par inoculation et ingestion, médicament dont la formule est encore un secret, mais qui va rendre soudain vigueur et santé à un peuple surmené, à un sang appauvri par toutes les fatigues de la vie électrique que nous menons tous. Bienfaiteur de l'humanité, le sublime Philox Loris l'est donc doublement. Par la santé et l'énergie physique et morale rendue à tous au moyen du miraculeux filtre que le grand magicien moderne a composé, et par sa puissante conception de la guerre médicale, qui clôt à jamais l'ère sanglante des explosifs, projetant au loin en débris sanglants les innombrables bataillons amenés sur le champ de bataille. La guerre médicale, ô progrès, ayant pour but seulement la mise hors de combat, déchaînera sur les belligérants des maladies qui coucheront les populations entières sur le flanc pour un temps donné, mais du moins n'enlèveront que les organismes déjà en mauvaise condition. Mais, de même que lors de l'invention de la poudre, le moine Schwartz, inaugurant l'ère des explosifs, fut la première victime de sa grande découverte, de même Philox Loris, inaugurant l'ère de la guerre médicale, inventeur de procédés et d'engins merveilleux, faillit périr dans son laboratoire sur le théâtre de sa victoire, terrassé avec son collaborateur sulfatin par une fuite des miasmes concentrés réunis pour ses études. Il a failli périr, mais il vit pour assurer le triomphe de la science, pour faire franchir une étape nouvelle à l'humanité, pour faire faire un pas décisif à la cause sacrée du progrès et de la civilisation. Il a failli périr, mais il vit, couché sur un lit de douleur. Il paye par de cruelles souffrances, noblement supportées, la rançon du génie. Et, dans le grand téléphonoscope de l'époque, celui qui montrait chaque jour aux Parisiens, devant l'hôtel du journal, l'événement à sensation, apparut, matin et soir, la chambre du malade, avec l'illustre savant dans son lit, en proie à la fameuse fièvre inédite. On voyait, avec le bulletin rédigé chaque matin et chaque soir par les illustrations médicales, l'illustre savant en proie à un accès de délire, l'illustre savant commençant à aller un peu mieux, l'illustre savant ayant une rechute. Jusqu'au jour où l'on put voir ce martyr de la science debout dans la robe de chambre du convalescent et déjà au travail. L'homme d'État, le grand orateur et historien des Marettes, fier d'être aussi compté parmi les martyrs de la science, se hâta aussitôt rétabli de déposer à la Chambre en demandant l'urgence la proposition de loi relative au grand médicament national. Depuis 15 jours, on ne parlait que de l'affaire Philox-Loris. C'était la grande actualité à l'ordre du jour de toutes les conversations, le sujet de toutes les discussions des académies scientifiques. La proposition des Marettes ne traîna donc pas dans les bureaux. Elle fut examinée par une commission, ses articles furent débattus avec l'illustre savant, discutés d'avance par tous les journaux. Et lorsqu'elle parut devant les chambres, presque tous les partis s'y rallièrent, opposants et gouvernementaux. Et même, grâce à l'appui de Madame Ponto à la Chambre, de la sénatrice Coupard de la Sarthe au Sénat, le parti féminin et le parti intégral masculin, les adhérents de la Ligue de l'émancipation de l'homme, dirigée par M. Desmarettes, se trouvèrent d'accord et votèrent du même côté pour la première fois. La loi passa à une énorme majorité. Il résulta ceci de ces nombreux articles. Premièrement, l'inoculation du grand médicament devenait obligatoire une fois par mois pour tous les Français à partir de l'âge de 3 ans. Deuxièmement, le monopole de la fabrication du grand médicament national, microbicide et dépuratif, anti-anémique et reconstituant, était assuré pour 50 ans à la maison Philox-Loris. Troisièmement, une récompense nationale à l'illustre Philox-Loris était votée à l'unanimité. Disons tout de suite que celui-ci n'accepta qu'une grande médaille d'or, remarquable objet d'art, qui représentait d'un côté l'illustre savant en Hercule, vainqueur des hydres modernes, avec une inscription commémorative de sa grande découverte sur le revers. Les questions secondaires, relatives à l'organisation des services, restaient à régler. Mais c'était l'affaire de Philox-Loris, nommé administrateur général avec plein pouvoir. De plus, sur l'avis de Philox-Loris, la création d'un ministère de plus fut décidée. On l'intitula « Ministère de la Santé publique ». Le portefeuille en fut donné à une éminente avocate et femme politique, Mademoiselle la sénatrice Coupard de la Sarthe, rapporteuse au Sénat du projet de loi sur le grand médicament national. Cette réglementation de tout ce qui concerne l'hygiène et la santé publique va simplifier considérablement bien des choses et rendre aux populations d'immenses services. En bien des cas, le grand médicament national suffira parfaitement à rétablir les santés chancelantes, à remettre en bon état les organismes avariés ou fatigués, sans intervention aucune du médecin. Anémiés, dyspeptiques, gastralgiques, malades du foie, etc., seront très vite soulagés. Ils n'auront plus besoin de prendre leur repas, ainsi que beaucoup s'y résignaient dans les restaurants pharmaceutiques fondés avec tant de succès en ces dernières années. Cuisine officinale, où les repas étaient préparés sur ordonnance par des pharmaciens diplômés, disciples à la fois de M. Purgeon et de Brillat Savarin, inventeur de plats hygiéniques renommés, mais en somme assez coûteux. Monsieur Philox-Loris se trouva donc débarrassé des préoccupations de sa grande affaire du médicament. Il était temps, car il commençait à se sentir le cerveau horriblement fatigué. Lui aussi, dans le travail formidable de ces derniers jours, il avait eu des distractions, et par moments s'était vu sur le point de confondre les flacons du grand médicament national avec les cornues de l'affaire des miasmes. Maintenant il était libre, et suivant son habitude de se reposer d'une fatigue par une autre fatigue et d'un travail par un autre travail, dont la nouveauté surexcitait ses facultés, il pouvait se consacrer entièrement aux dernières études sur la concentration des miasmes et leur emploi généralisé dans les opérations militaires. Une commission d'ingénieurs généraux, nommée par le ministère de la Guerre, avait été chargée d'élaborer dans le plus grand secret un projet d'organisation du corps médical offensif. Elle tenait séance toutes les après-midi sous la présidence de l'illustre savant. On voyait peu Estelle Lacombe au laboratoire. La jeune fille, en arrivant chaque matin, se hâtait, après avoir fait acte de présence chez M. Sulfatin, de gagner l'appartement de Mme Loris, où personne des amis et relations de Philox Loris, tous gens de science, d'affaires ou de politique, ne pénétrait jamais. Mme Philox Loris était si occupée, pensait-on, toujours perdue dans les plus profondes méditations philosophiques, tournant et retournant pour son grand ouvrage les plus nébuleux problèmes de la métaphysique. La fiancée de Georges Loris, ayant gagné complètement la confiance et l'amitié de sa future belle-mère, fut pourtant à la fin mise dans la confidence de ses travaux, dont la seule idée la faisait trembler presque autant que les vastes conceptions scientifiques de Philox Loris. Un jour, Madame Loris l'introduisit mystérieusement dans une petite pièce que Philox Loris appelait le cabinet d'études de Madame. C'était un petit salon fort gai, rempli de fleurs, suspendu comme une cage vitrée sur l'angle de l'hôtel, avec vue sur le parc et sur l'immense déroulement des toits et des monuments de la grande ville. « Voyez si j'ai confiance en vous, ma chère Estelle, » dit Madame Loris. « Je vais tout vous dire. Il me semble que vous n'êtes pas trop ingénieur pour me comprendre. Hélas, je le suis si peu, madame. À mon grand regret, et malgré mes efforts, Monsieur Philox Loris me le reproche toujours. Tant mieux, tant mieux. Je puis vous révéler mon grand secret. Je m'enferme ici pour, je le sais, madame, pour méditer et écrire votre grand ouvrage philosophique, dont Monsieur Loris donna l'autre jour devant moi des nouvelles à quelques membres de l'Institut. Vraiment ? Il en parlait ? Oui, madame. Il paraît que votre travail avance. Du moins, c'est ce que disait Monsieur Loris. Mon grand ouvrage philosophique, le voici, dit Madame Loris en riant. Et elle montrait à Estelle, stupéfaite, une petite tapisserie en train de diverses broderies, jetée parmi des journaux de mode sur une coquette table à ouvrage. Oui, je m'enferme ici pour travailler à ces petites inutilités. Je me cache soigneusement de mes amis bourrés de science, ingénieurs, doctoresses, femmes politiques. C'est ma frivolité qui s'obstine à lutter et à protester contre notre siècle scientifique et polytechnique, contre mon tyrannique mari et ses tyranniques théories. Nous serons deux, si vous voulez. Si je le veux ? Ah, je crois bien. J'abandonne le laboratoire et je reste avec vous, dit Estelle avec joie. Ne voyant presque plus Estelle, M. Philox Loris en était arrivé à l'oublier. Georges Loris put s'en apercevoir un jour que M. Loris, entre une matinée de manipulation de miasmes dans son laboratoire, et une après-midi réclamée par le comité d'organisation du nouveau corps médical offensif, crut pouvoir consacrer quelques instants à ses devoirs de père de famille. « À propos, et l'affaire de ton mariage ?» dit-il à Georges. « Qu'est-ce que nous avons conclu, donc ? Je ne me rappelle plus. Où en sommes-nous » « Nous en sommes, » répondit Georges, à la conclusion naturelle. « Vous n'avez plus qu'à fixer le jour. » « Très bien. » « Voyons, je suis tellement pris, passe-moi mon carnet. »« Bien, mercredi prochain. »« Non, il faut les 8 jours de publication. »« Samedi alors. »« J'aurai 1 heure à moi, vers midi. »« Crie-moi cette date dans mon phono-calendrier de chevet. »« Samedi 27. »« Mariage Georges. Au revoir. »« À propos, sapristi, avec laquelle des deux ?»« Comment des deux ?»« Oui, de la doctoresse Bardoz ou de la sénatrice Coupard de la Sarthe. » Je dois t'avouer, mon cher enfant, que j'ai eu des distractions en ces derniers temps. Je baisse, mon ami, je baisse. Je voyais beaucoup ces dames dans nos comités. Un jour, j'ai demandé la main de la doctoresse Bardoz, et 2 jours après, par suite d'un oubli que je ne m'explique pas, j'ai aussi demandé celle de la sénatrice. Je suis fort embarrassée et ennuyée. C'est à toi de décider. Tu sais, j'ai eu acceptation immédiate. Ces dames n'aiment pas à gaspiller leur temps ni celui des autres. Voyons, laquelle ?
Ni l'une ni l'autre ? S'écria Georges en s'efforçant de ne pas rire.
Votre distraction a été plus grande que vous ne le soupçonniez. Vous avez oublié que j'étais fiancée à une troisième personne, et c'est celle-là que j'épouse.
Oh, sapristi, qui donc ?
Mademoiselle Estelle Lacombe.
Ah, la jeune demoiselle encore imbue des frivolités d'un autre âge.
Je n'y pensais plus du tout, je te croyais guérie.
Ah, mais nous en recoserons, nous verrons, je me sauve.
Le samedi 27, le téléphono-agenda de Monsieur Philox Loris lui rappela que le jour fixé pour le mariage de Georges était arrivé.
Quelle corvée.
Justement, il avait le matin une série d'expériences décisives pour l'affaire des miasmes, et ensuite une importante séance du comité. Monsieur Philox Loris s'habilla à la hâte et téléphona à son fils.
« Tu ne m'as pas dit avec laquelle ?»«
Mais si, avec Mademoiselle Estelle Lacombe. »
Alors c'est décidé ?
Tout à fait. Toute la noce est prévenue. Maman s'habille pour la cérémonie.
Je n'ai pas le temps de discuter.
Tu y mets vraiment de l'obstination. Soit, mon garçon. Je te préviens seulement une dernière fois que tu ne dois pas t'attendre à une descendance forte en mathématiques.
J'y suis résignée.
Comme tu voudras.
Mais avec tout cela, me voilà fort embarrassée, avec mes 2 autres demandes en mariage.
Tu m'as tellement troublée depuis quelque temps. L'inconcevable légèreté avec laquelle tu arranges ta vie et gâches si regrettablement ton avenir m'a si fort inquiétée. J'ai la doctoresse Bardoz et la sénatrice Coupard de la Sarthe sur les bras maintenant, et à cause de toi.
Cela va me faire certainement 2 bons procès à soutenir. Et j'ai bien d'autres choses en tête pour le moment.
Comment me tirer de là ?
Dame, je ne sais pas trop.
J'y pense. Une sénatrice, une doctoresse, cela ferait bien l'affaire de Sulfatin.
Comment ? Toutes les deux ?
Non, une seulement, n'importe laquelle. C'est un homme sérieux, lui. Ce n'est pas un joli cœur comme toi.
Un cerveau atrophié par le futilisme. Il est redevenu le Sulfatin d'autrefois, d'avant la petite chute. Sur lui, désormais, fadaise, billevesée sentimentale, n'auront plus prise.
Pour Sulfatin, j'en suis sûre, sénatrice ou doctoresse, peu importe, elles se valent.
Mais c'est qu'il en restera une.
Saperlipopette.
Tu peux dire que ton mariage me jette dans de cruels embarras. À un moment où, je te le répète, je n'ai guère le temps de m'occuper de toutes ces niaiseries.
Que ferons-nous de la deuxième, mon Dieu, qu'en ferons-nous ?
Il y a bien Monsieur Adrien Laironnière, votre ex-malade.
Mais il avait parlé pour être soigné d'épouser Gritli, qui s'entend à le dorloter.
Puisqu'il n'est plus malade, d'ailleurs il pourrait épouser la doctoresse Bardoz, et Sulfatin, qui est ambitieux, aurait la main de la sénatrice.
Il faut absolument que j'arrange ces affaires-là avant d'aller pour toi à la mairie.